France Musique. Les grands entretiens. Rodolphe Bruno Boulmier.
Je suis Katia Labeck.
Je suis Marielle Labeck. Je suis la sœur de Katia.
Nous sommes nées toutes les deux à Bayonne. Marielle le 6 mars, moi le 11 mars.
Et nous sommes toutes les deux pianistes.
Dans votre carrière, vous avez joué sur pianoforte, vous êtes tout d'un coup intéressé à la musique dite baroque, vous avez rencontré John Elliott Gardiner. Comment est-ce que ça s'est passé, ce moment où vous avez décidé même de faire construire des instruments pour vous ?
Par coup de cœur, parce que Marco Postinguel, qui est un grand ami et qui est un musicien extraordinaire, nous avait fait découvrir Giardino Armonico, Musica Antica avec Reinhard Goebel, bon, Giardino Armonico avec Giovanni Antonini. Et on les aimait tellement qu'on voulait jouer avec eux. C'est toujours la même histoire. Donc on est allé voir Giovanni un
toujours
jour.
Toujours les mêmes,
mais,
on revient
mais
à
nous,
pour
on aimerait bien jouer avec... Et il a dit, oui, mais vous pouvez pas avec vos deux sténoués, vous allez nous tuer. Il dit, c'est nous, il vous faut des instruments d'époque. Et alors j'ai dit, bon, mais dites-nous quoi faire. Alors il a été très gentil, Giovanni nous a amené un peu écouter les deux instruments qui auraient pu aller, c'est-à-dire d'une partie c'était Cristofori et il y en avait un qui était à Florence, mais ils ont vraiment mais pas de son du tout. Et après il a dit non, mais Guelmi à Milan a fait construire par Andrea Restelli un très très beau Silbermann, donc il nous a amené essayer ce Silbermann et on a dit bah oui c'est ça, donc on va commissionner. Donc et comme il fallait au moins 2 ans ou 3 ans pour construire chaque instrument, 2 ans et demi, on a dit bon mais mon instrument va être construit par Andrea Restelli puis celui de Marielle va être fait à Washington par Tom et Barbara Wolf. Et c'est ce qu'on a fait. Et après, on avait décidé de faire des concerts pour la commémoration de l'anniversaire Bach, qui était en l'an 2000, c'était 250 ans. Et à ce moment-là, on a commencé à tourner. Les instruments sont arrivés, je crois, en 98, 99. On a eu le temps de s'habituer. Ils étaient en commande depuis 95, 96. Marco a beaucoup changé notre vie parce qu'il a été vraiment la personne qui nous a dit non, mais si vous voulez jouer Bach, vous pouvez pas jouer non plus sur ces instruments-là. Si vous voulez jouer avec ces groupes baroques, vous pouvez pas jouer sur des sténoé.
Et ça, du coup, enfin, oui, ce sont des instruments différents. Donc, la technique doit changer.
Pour moi, c'est très, très difficile. Elle a une main un peu plus petite en fait, donc j'ai l'impression que c'est un petit peu plus facile. Bon, j'ai beaucoup de mal.
Mais on les joue sur le projet basque, ouais. Parce que pour faire la musique, et surtout avec Carlos Mena, mais on n'en joue pas assez parce que c'est ce qu'on disait au début de cet entretien, c'est que effectivement, on aurait pu faire par siècle un disque et à ce moment-là se consacrer sur chaque instrument, mais on continue à développer ça parce que si on joue Mozart, on joue plutôt sur des Walter ou Stein ou Dulken. Et Restelli vient de construire un Dulken merveilleux. Et on vient de lui passer aussi une autre commission pour en construire un pour Marielle. Parce que alors, cet instrument-là convient très bien au jeu de Marielle. Très, très bien.
C'est très, très belle basse.
Il a des basses incroyables.
Et on était à Milan, on y est allé exprès. On a revu Giovanni Antonini.
Et puis maintenant, on va jouer à Rimini. Et quand on va jouer à Rimini, on va conduire après pendant, je sais pas, 3 ou 4 heures dans la nuit pour aller essayer chez Francesco Sanotto. Il a un Walter et il a un autre instrument aussi, plus ou moins, Viennese, enfin, de cette époque-là, qu'on veut essayer aussi. Donc, on essaye d'incorporer ça dans notre planning. On a un concert avec Giovanni au Festival de Ravenna en juin l'année prochaine. Donc, on veut être sûr d'avoir les meilleurs instruments.
Thank you.
l'impression que ça a quand même changé quelque chose aussi, même dans votre rapport à la musique classique. Je pense par exemple au disque de sonate, la sonate pour deux pianos de Mozart. Je trouve que dans la façon de phraser, notamment dans le dernier mouvement, le début, enfin le, ça vient, j'ai l'impression que ça vient
ça,
du baroque.
C'est Leonard Biebold, ça. Oui. Avec les petites notes avant, etc. Mais ça, bon, il faut vraiment, je peux même pas parler à sa place parce qu'il est tellement.
Mais c'est très basé sur les méthodes de Turc. Et Reinhard dit que le papa de Mozart avait toujours ça, la méthode de Turc, et cette méthode-là, dont il nous a fait d'ailleurs la traduction en français. Et c'est très très intéressant parce qu'il explique justement que la petite note, si Mozart vraiment la voulait, il l'écrivait. Alors on sait que c'est très contesté, mais il dit que vraiment quand elle est avant, elle se joue avant le temps et rapide et inégale. C'est-à-dire parfois plus rapide, plus long. Et de toute façon, toute cette base de musique baroque, c'est aussi basé sur l'inégalité.
C'est vraiment l'inverse de tout ce qu'on a travaillé toute notre vie. C'est un travail, un jeu égal, très clair, très
perlé,
et
méthodique.
C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Mais là aussi, c'était un travail énorme. Parce que même de jouer avec Giovanni Antonini ou avec Reinhard Goebel, ce sont deux écoles complètement différentes. Mais c'était bien, parce que tout d'un coup, là, c'est vrai que c'était un stress, parce qu'on quitte un piano qu'on connaît bien et tout, on se retrouve là sur ce tout petit clavier, déjà, le centre n'est plus au même endroit, donc parfois je me sentais complètement vraiment décalée, le clavier est plus petit, l'octave est plus petite, enfin, c'était pas
évident. Et encore,
on a appris les phrasés aussi,
le Silbermann a un enfoncement qui est quand même...
qui résiste un peu, ouais.
Plus résistant. Mais le Walther, par exemple, qui est un bel instrument pour Mozart, c'est tellement léger. On joue, déjà terminé. Donc là, pour Marielle, c'est très, 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 très difficile.
On se déplace sur le clavier, boum, il y a une note que je joue toute seule. C'est l'enfer. Non, un peu de stress. Mais c'est vrai qu'après, je trouve que lorsqu'on rejoue Mozart justement sur un grand piano, on joue différemment, ça c'est sûr. Les phrasés, le son aussi, parce que l'usage de la pédale aussi, on ne pouvait pas. En fait, on a dû redoigter, parce que justement, on ne peut pas mettre de pédale comme si on restait noué. Donc on doit mettre des doigtés qui permettent de tenir et tout. Donc c'est un autre...
Bien sûr. Mais d'ailleurs, la sonate de Mozart, on aimerait la réenregistrer sur des fortepianos.
Lorsqu'on regarde ce chemin que vous avez fait avec la musique, on l'a dit, il y a les rencontres qui ont guidé en fait toute votre vie.
Oui, oui.
Mais il y a aussi, j'ai l'impression, une sorte de volonté de votre part d'indépendance, d'être libre, d'avoir construit votre studio pour faire vos propres disques. Est-ce que c'est parce que vous n'étiez plus contente du travail avec Philips, des prises de son? Il y a là aussi la volonté chez vous de contrôler tout ce que vous faites pour une sorte de perfection. Je ne sais pas si la perfection existe en soi, mais en tout cas,
non,
il y a quelque chose.
Pas. La perfection n'existe pas. Mais ce qui existe, c'est de se trouver dans les meilleures conditions possibles. Et c'est vrai que d'enregistrer, quand on sait qu'une compagnie de disques va louer un studio, ils vont louer les pianos, l'accordeur va être là à disposition, on sait que tellement de personnes attendent ça, que ça met une pression qui forcément va changer notre façon de jouer, ça va changer notre perception. C'est quelque chose aussi de très psychologique. C'est pas forcément un jugement de valeur. C'est pas que ça. C'est qu'on est plus tranquille aussi. Et que si tout d'un coup on se sent pas bien, qu'on est un peu malade, ça m'est arrivé de me faire mal au dos. Dans l'enregistrement des danses hongroises de Brahms, il a fallu qu'on arrête tout l'enregistrement. Philips a été obligé de renvoyer tout le monde. Je pouvais plus bouger. J'avais une hernie discale. J'étais collée au lit et j'étais vraiment très jeune quand j'ai commencé à avoir mes premières hernies discales. Et c'était infernal. Et donc, il a fallu qu'on remette le disque 6 mois ou 1 an après. Enfin, on a perdu un temps fou. Donc, parce que aussi j'avais voulu continuer à jouer et que Philips a dit non, mais alors on va vous amener à ce chiropracteur, on va t'amener là, on va t'amener là, et ce qui avait fait pire, parce que tout ce qu'on peut faire quand on est en crise, c'est rien faire justement, c'est dormir, c'est s'allonger et rien faire. Et donc après ça, on avait été un peu marqué. C'est pas tellement le stress de jouer, mais c'est le stress d'arriver à ce que le jour se passe et que rien n'arrive avant que cette date si importante soit faite. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tout le temps. On était à Berlin maintenant et tous les concerts avec Berlin Philharmonique sont enregistrés pour le Digital Concert Hall. Et c'est pas le trac de jouer le concert, mais disent, OK, il faut pas que je me fasse renverser dans la rue, il faut pas que je me coince le doigt, il faut pas que je m'ouvre la main comme Marielle a fait une fois avec un verre qui s'est cassé dans sa main. Enfin, il y a 10 000 choses qui font que tout d'un coup, un concert qui est important parce que c'est lié à d'autres personnes qui travaillent pour ce concert peut être annulé ou pas. Quand, si on fait un récital toutes les deux, toutes seules, ça implique moins de personnes, donc on est un petit peu moins concerné. C'est grave, mais voilà, une date en récital, on va toujours la remettre. Mais quand il y a un orchestre symphonique, il y a une équipe de caméras, de télévision, d'ingé son, voilà, on sait que c'est important d'arriver à ce moment-là en forme, bien, pas malade. Et pour les disques, c'est un peu la même chose.
En 2007, à Rome, dans une ancienne école, Katia et Marielle Labeck décident de construire leur propre studio d'enregistrement pour fonder le label KML. C'est dans le studio romain qu'elles enregistrent aujourd'hui de nombreux disques, dont cette première danse hongroise de Brahms.
Avant, on avait 3 jours, donc on arrive à 10h du matin, bloom, la lumière rouge, il faut y aller. Pour moi, c'était extrêmement difficile. C'était moins difficile, je pense, pour Katia. Mais si on reparle de ce disque de Rhapsody in Blue, ça a été le pire souvenir de ma vie.
Et on avait un producteur extraordinaire.
Je voulais racheter les bandes. On avait un super producteur.
On avait un super très producteur. Gentil. Donc, c'était vrai. La faute de Philippe. Michel Bernard.
Il était formidable. Et franchement, j'étais pas bien. On a souvent des tensions quand on enregistre entre tous les deux. Donc, j'aime pas quand on est avec des producteurs. Mais souvent, on avait des producteurs différents à chaque fois. Chaque enregistrement, il y avait une personne qui arrivait là, qu'on connaissait pas. Et on n'a pas forcément les mêmes goûts musicaux, etc. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Non, maintenant, c'est une liberté. C'est-à-dire qu'on peut rentrer au studio. Quand on est prête, on peut enregistrer une pièce, après enregistrer une autre. Mais ça, c'est un luxe. Mais total. Et je me souviens des premiers disques qu'on faisait, on attendait le producteur qui est toc toc toc. Ah, c'est pas ensemble le premier. Bon, d'accord, ça commence bien. Bah, après, on peut plus phraser. Et puis, il faut prendre des risques. Et c'est pas une question d'être ensemble, c'est une question de phraser ou de respirer ensemble. Si on phrase pas ensemble, on sera jamais ensemble de toute façon. Et ça, c'est pour moi, c'est la plus grande difficulté. Parce que si on fait un ensemble avec un violoniste ou des instruments à cordes, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Enfin,
oui,
c'est pas du tout. Mais ça, le piano, c'est direct. C'est vraiment comme deux instruments de percussion.
Et si on pense vraiment qu'il y a ça... Philippe, ça n'a pas toujours rendu compte de votre jeu, il me semble.
Non, ça c'est sûr. Et puis bon, ça a changé aussi, parce que c'était il y a quelques années. Donc tout progresse tellement. Les sons aussi se démodent, hein, c'est incroyable. Quand j'écoute les sons aussi à l'époque, c'est vraiment c'est incroyable.
Et puis c'est très difficile de piano enregistré.
Très.
C'est très, très, très difficile. Un enregistrement live, c'est différent qu'un enregistrement en studio. On ne peut jamais avoir non plus les mêmes caractéristiques. Mais on sait qu'il va falloir qu'on enregistre live. Effectivement, tous ces concerts, comme maintenant, même à Londres, on joue avec le LSO et Simon Rattle. Et ils veulent enregistrer, ils veulent que ce soit enregistré, mais on aura la disposition concert, on peut pas, la disposition enregistrement, c'est impossible pour une salle, quoi, parce qu'il y a un piano qui a un couvercle dans un sens, le piano a le couvercle dans l'autre sens, comme ça les deux pianos gardent le couvercle. Et ce qui est plus beau pour les harmoniques, des basses et tout ça, c'est beaucoup plus beau. Donc ça, c'est vrai aussi que du temps de Philips, on pouvait pas leur imposer notre façon d'enregistrer. Ils disaient non, nous on enregistre comme ça et puis c'est tout. Donc vous vous mettez côte à côte ou vous vous mettez... Donc voilà, on faisait comme ils nous disaient et puis on n'avait pas le même âge et c'était
mais
comme
la
ça.
La difficulté d'enregistrement, c'est justement d'accepter ses limites. Donc on écoute, moi j'ai toujours quelque chose que je n'aime pas, c'est rare que je sois contente. Et donc on veut refaire, on fait refaire, après on refait et puis on perd. Et finalement, après un moment, on réécoute les premières prises, on se rend compte que c'est beaucoup mieux. Enfin, c'est quand même difficile, assez déprimant ce qui me concerne, à nouveau. Et je suis contente là, parce que ça me donne une petite liberté. Et si tout d'un coup, il y a un problème, vraiment quelque chose qui ne va pas, ben, on arrête. Et puis on dit, bon, on recommence demain, on retravaille, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne sonne pas bien, qu'on doit jouer différemment, qu'on doit doigter différemment. Parfois, ça manque d'aigu, ça manque de clarté, ça manque de... Eh ben, on peut refaire des choses. C'est vraiment travailler, en fait. Quand on a enregistré le sacre, on l'a préparé comme ça. On a fait des espèces de tests, un peu d'enregistrement, on a essayé, et on l'a enregistré une troisième fois. Et ça, c'est un luxe incroyable.
Les grands entretiens de Katia et Marielle Labeck, France Musique.
On a parlé beaucoup de musique, j'aimerais qu'on parle aussi un peu de la vie en règle générale. Qu'est-ce que c'est que de vivre à deux ? Enfin, il y a quelque chose d'incroyable, deux sœurs qui, quelque part, ont passé leur vie ensemble. Vous êtes toujours obligées d'être l'une près de l'autre, vu que tous vos concerts sont...
Oui, mais pas forcément. En fait, on est toutes les deux farouchement indépendantes. C'est vrai que Marielle a aussi son monde, elle a son mari, Sémion est beaucoup à Prague maintenant, et donc elle arrange aussi ces périodes qui sont en dehors de nos concerts, en fonction de Sémion, et qui ne sont pas ce que je fais moi. Donc c'est vrai que la plupart du temps, on est ensemble, forcément, mais quand on n'est pas ensemble pour des concerts, on n'est pas ensemble, si Sémion n'est pas avec Marielle, Marielle va aller le rejoindre. Donc c'est une vie plus compliquée pour Marielle que pour moi, parce que j'ai la chance que David soit dans son studio, il est producteur, c'est plus facile. Mais quand même, je crois qu'on a toujours gardé notre indépendance. C'est la même chose dans un couple. Je crois que pour bien réussir son couple, il y a une notion d'indépendance qui est importante. Il faut pas que ce soit une notion de domination ou de voilà, tu dois faire ça, je dois faire ça. En même temps, il faut que tout le temps le plaisir soit la clé. Il faut toujours qu'on ait envie de jouer ensemble, qu'on ait envie de se retrouver. Donc bien sûr, on passe beaucoup de temps ensemble, mais pas forcément le temps qu'on a off.
Et Marielle, j'aimerais qu'on parle justement de Sémion Bichkov. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre rapport à la musique, de vivre avec un chef d'orchestre? C'est quand même c'est quelque chose d'un...
En fait, ce que j'adore lorsque je suis avec lui, c'est que j'adore les chanteurs, et que souvent, quand il prépare des opéras, j'adore. Soit Covent Garden, cet été, il était à Bayreuth, il a dirigé Parsifal. C'est magnifique. J'y serais jamais allée. Je pense vraiment pas que j'aurais pris le temps, moi, comme ça, si je n'avais pas là d'aller. Je crois pas qu'on va arriver à Nekatia un jour, mais qui sait, on sait jamais.
On sait jamais.
Et je crois que c'est ça, c'est encore une autre... une autre dimension, c'est un autre répertoire. Donc c'est bien aussi quand on est en plein de tout un coup dans la musique contemporaine et tout, j'arrive, j'écoute Parsifal et c'est vraiment un autre monde. Et puis après, le plaisir de faire la musique ensemble, mais on le fait pas énormément, on l'a très peu fait pendant, on est ensemble depuis 30 ans maintenant, c'est incroyable. Et on le fait un petit peu plus maintenant, puis on le fait quand on est aussi, quand on fait partie de la même saison, parce que les chefs, ils ont toujours la liste des invités, vous savez, qui, de la saison, et ils choisissent avec qui ils veulent jouer ou pas jouer. Et donc, si on est dans une même saison, évidemment qu'on va essayer d'être ensemble, donc à faire. C'est très bien. Alors là, pour nous, moi, je suis ravie parce que je suis avec Katia, je suis avec lui. Ce qui ne veut pas dire que c'est plus facile de jouer avec lui. Parfois, c'est pas forcément plus facile, justement parce qu'il est mon mari et que j'ai envie que ce soit toujours à un certain niveau. J'ai pas envie de décevoir. C'est pas, mais, je sais pas, c'est différent. Mais en tout cas, c'est une vie je trouve très très riche, très compliquée, très fatigante. Il n'y a pas une semaine qui ressemble à une autre. Il n'y a pas un mois qui ressemble à un autre. C'est fou. C'est chaque année, on est là, on découvre. Katia fait un travail de folie parce que c'est elle qui tient un peu le calendrier en fait, complètement. Ça, vraiment, je serais incapable de le faire. Mais souvent, elle connaît mieux le calendrier de Simone que le mien, parce qu'elle essaye de regarder quand on a nos périodes. Non, mais si on fait ça maintenant pendant 3 semaines, quand on revient, alors Simone, je sais pas où, après vous voyez pas pendant 2 mois, mais donc si on fait ça, mais si on remet cette... Là, c'est tellement compliqué. Parfois, je laisse un peu la vie faire les choses, mais là, c'est vrai que maintenant, on est obligé un peu de le contrôler. Donc, c'est compliqué.
Quel genre de chef c'est ? J'en parlais avec Bertrand Chamaillou, qui me disait son geste est incroyable, c'est un geste très ample et qui est assez bas, qui a quelque chose d'assez terrien aussi le son. Est-ce que...
Absolument, absolument. Et parfois, pour nous, ça peut être assez compliqué, surtout dans des répertoires comme là, récemment, on a joué le concerto de Brooke avec lui, parce qu'il a il prend vraiment le temps, enfin, c'est vraiment des accords. Et le piano, je pense, c'est très direct. Et nous, si on est toutes les deux, on n'a aucun souci parce qu'on est ensemble et qu'on se connaît, on respire ensemble. Mais tout d'un coup, il y a une personne qui est au milieu. Et évidemment, ça décale. C'est beaucoup plus difficile de jouer ensemble pour nous avec un chef, en fait. Donc voilà, ça prend un peu de temps. Mais maintenant, on a fait plusieurs concerts et puis on se sentait... Les derniers concerts, là, on se sentait vraiment... On se sentait bien. On se sentait très bien. Et maintenant, on a le projet, évidemment, de rejouer ce concerto de Martinou que j'adore. En plus, avec l'orchestre de Prague est magnifique, donc on a des tournées, ça va être encore un beau projet, on va l'enregistrer, c'est bien.
Et le fait aussi d'être ensemble, mais d'être tellement différentes, l'une et l'autre.
Je crois que c'est ça qui a fait qu'on est encore là aujourd'hui.
Thank you. Respirer à deux, vivre ensemble, réinventer le quotidien à chaque instant, c'est la mission musicale de Katia et Marielle Labbec que nous quittons aujourd'hui avec la musique de William Dugsworth. Toutes les références des disques diffusés se trouvent sur le site des grands entretiens francemusique.fr. Cette émission a été réalisée par Gilles Blanchard avec Flora Sternadel, Laurent Lucas et Éric Boisset.
À réécouter sur francemusique.fr.